48 FM.
De Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du temps dit apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Du temps dit apéro.
Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce 19e magazine d'Instant Sport. Patrick, je me suis pas trompé, c'est bon ?
Oui, excusez-moi, c'est vrai que, bien sûr, ton décompte était le bon, je me suis trompé, donc mea culpa.
C'est pas le 13e ?
Non, c'est l'émotion.
C'est le 19e. Allez, une émission, vous en avez l'habitude, qui décrypte l'actualité sportive lausérienne, nationale et internationale. Nos trois chroniqueurs bien présents, vous avez entendu Patrick qui est là. Un record de points en carrière pour notre spécialiste basket ce week-end avec le BCM. Il a affolé les compteurs, mais n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe. Bonjour Luc.
Bonjour, je tiens à préciser, record de la saison. Record en carrière attend de 13 points.
Ah oui, et là tu as marqué
4.
Mais c'est bien déjà.
C'est pas mal.
Des dunks arrière.
Oui, double dunk, un truc de fou.
C'est ce que Michael Jordan inscrivait en 30 secondes.
D'ailleurs, il sort de chez l'ostéopathe, Lucas.
C'est ça.
Allez, lui, son équipe l'emportait de justesse. A-t-il de nouveau marqué sur un coup franc à la Juninho comme la semaine dernière ? La réponse dans un instant. Salut Laurent.
Salut, bonjour à tous. Eh bien non.
Eh bien non.
J'ai tiré 2-3 coups francs. Alors, un qui est parti à bas la roue, l'autre sur la zone et un cadré, voilà. Mais bon. Pas de but ce week-end.
Une passe décisive.
Une passe décisive quand même sur le quatrième.
Ah ben, c'est bien.
Bon, c'est déjà pas mal.
Ouais. Bon, on l'a entendu. Salut Patrick.
Salut, bonjour à toutes et à tous.
Toi, on donne pas tes résultats, c'est que tu finis second. Donc c'est bon.
J'hésitais à refaire un tournoi cette année, mais tu vois, tu me dis ça, donc je vais en refaire un pour essayer de finir premier.
Ah, c'est bien. Allez, un invité aujourd'hui qui va pouvoir témoigner sur la justesse des dribbles de Laurent, ses précisions sur les coups francs et ses tacles qui touchent 3 fois sur 4 le mollet de son adversaire, car il évolue dans la même division que lui. Mais il est surtout présent pour évoquer son club de foot de Châteauneuf qui a gagné ce week-end 4-2 face à la rude équipe de Chanac. Florian Almeras, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être présent avec nous. Donc on va faire comme d'habitude, on en parlera à la fin de l'actualité sportive lausérienne. On va commencer par le volley-ball.
Attends, juste pour préciser pour Florian qui est aujourd'hui, qui représente aussi le club de Châteauneuf, mais surtout c'est un fidèle auditeur.
Et surtout c'est un fidèle auditeur qui nous a appelé. Il y a Saint-Georges de Lévéjac qui nous a appelé aussi, qui sera là la semaine prochaine. Donc c'est bien, continuez à nous appeler si vous voulez passer dans l'émission.
En plus tu as annoncé quelques chiffres hors antenne, donc cette émission marche du feu de Dieu.
Voilà, c'est l'émission la plus podcastée de 48FM, donc bravo messieurs, merci à vous.
Merci.
Et c'est une émission qui plaît, qui est suivie, on va la poursuivre jusqu'à la trêve estivale, hein, avant de reprendre en septembre.
Après on verra en fonction du mercato.
Ouais.
Pareil que Patrick a reçu des appels de France Inter.
Ouais.
Mathieu Gallet l'a appelé.
France Culture.
France Culture. Allez, on commence par
agriculture. Patrick, t'es trompé.
Allez, on commence par le volley. Pas de match ce week-end, mais la semaine dernière, le MVL a perdu contre Caudry 3-7-0, pendant que Charenton et Mérignac ont gagné. Donc au classement, on commence par la fin. Dernier, Villefranche 6 points, Brive 7e 12 points, Mende premier relégable avec 13 points, et voilà le problème, 5e Charenton 19 points, Caudry qui a gagné 4e 19 points, Mérignac 21, Paris 21, Grenoble 21. Donc Patrick, au final, cette saison aura été une grosse déception. Hein.
Mais tu connais mon expression favorite, ça sent le sapin, on peut la ressortir pour le MVL. Il reste 3 matchs, alors mathématiquement tout est encore possible, mais il faut que tu fasses le plein.
Il y a 6 points d'écart avec Charenton.
Donc il faut que tu fasses le plein en gagnant 3-0 et 3-1 pour marquer chaque fois 3 points.
Et que les autres perdent.
Et voilà, et que les autres perdent 3-0. Donc bon, c'est quasiment mission impossible. Il y avait 2 matchs clés qui étaient à Villefranche et à Caudry. Tu as fait 2 fois défaite 2 fois 3-0. trop d'irrégularité au cours de la saison, et c'est ce qui te coûte certainement le maintien.
Peut-être d'ailleurs plus ce match contre ce match à Villefranche,
qui n'avait pas gagné de match
et qui, enfin voilà, perdre 3-0 là-bas. On va pas parler de faute professionnelle, mais bon, je pense que c'est au moins, au minimum, ramener un point. C'est un minimum de ce déplacement-là. Donc bon, j'ai peur que.
Non, mais c'est vrai que ça fait râler, parce que honnêtement, quand tu vois jouer cette équipe et quand tu les as vu faire des matchs aussi bien en première phase que dans cette deuxième phase, bon, tu vois qu'il y a largement le niveau pour se maintenir. Alors c'était pas tout à fait le cas l'année. Là, bon, ils s'étaient maintenus une année, mais l'année d'après ils étaient descendus. Bon, l'année où ils étaient descendus, ça paraissait logique, parce que bon, on voyait quand même que c'était vraiment compliqué, qu'ils étaient au taquet. Mais là, franchement, avec l'équipe qu'il y a, les recrues qu'il y a eu, bon, il y avait vraiment tout pour se maintenir, et il y a un peu quand même l'impression d'un certain gâchis de retourner à N2 si c'est le cas, parce que bon, voilà, il reste quand même encore 3 matchs. Ouais. Mais s'il y a descente, ça sera vraiment, bon, c'est pas normal, quoi. Franchement, c'est pas normal.
Cette équipe elle a montré que quand elle jouait à 100% de ses qualités, elle avait quand même sa place ailleurs. Déjà ailleurs que dans les play-downs, je pense. Et ailleurs que cette place de relégable. Après, faut peut-être aussi viser la place de premier non relégable. Même si
mais ils l'ont là actuellement.
Oui, mais ouais. Il faut la garder.
Il faut la garder.
Il faut la garder. Au cas où, on en parlait, on sait que Mérignac a des soucis. Il y aura peut-être d'autres équipes qui auront des soucis ou qui pourront pas continuer. Ouais. Donc,
c'est clair à ce niveau-là, que ce soit en Pro A ou en Pro B, il y a de nombreux clubs qui sont dans des situations financières terribles. Et en particulier Saint-Nazaire, qui s'est maintenu en Pro A et qui a déjà annoncé que non seulement il resterait pas en Pro A, mais qu'il ne serait pas non plus en Pro B, et donc ils veulent déjà repartir en 1-1, et encore il faut qu'ils voient si bon, donc c'est peut-être des clubs qui vont même carrément disparaître de la planète volée, donc et c'est pas les seuls. Hein.
Excuse-moi, mais la différence entre la Pro B et la National 1 financièrement, c'est quoi?
C'est énorme parce que en Pro B, tu as que des contrats professionnels. Alors qu'à N1, amende, il n'y en a pas, et dans certains clubs de N1, il y en a quelques-uns, mais bon, voilà, c'est vraiment le gouffre. La N1, d'accord, c'est le plus haut niveau amateur, et après, Pro B, là, tu commences déjà à un niveau professionnel. Il faut d'ailleurs que tu aies que des professionnels. Le règlement t'oblige à avoir que des professionnels.
Ouais. Il y a un club de volley à Châteauneuf?
Non.
Non, pas de club de volley.
Que foot.
Il n'y a que le foot. Bon, ben c'est bien. Heureusement qu'on n'a pas invité le volet de Châteauneuf, on aurait été mal.
Il serait pas venu.
On va suivre avec attention peut-être les descentes administratives, vu qu'il n'y a que ça qui paraîtrait sauver Mende. Enfin, c'est bien dommage. Handball, c'est un peu pareil que le volet pour ce week-end. Mende perd à domicile contre Annecy 36-29, pendant que Meylan l'emporte au classement. Au classement, Valence premier 49 points, Saint-Flour 48, Villeurbanne 43. Voiron 40, allez, on va passer vers la fin. Fontaine 9e, 36 points. Premier non relégable, Meylan avec 32 points. Mende 30 points. Courpierre 25 points. Voilà, on est à 6 points du premier non relégable. Luc, compliqué aussi là.
Ouais, très compliqué. Pas l'impression qu'il y ait grand chose qui puisse sauver le MGC. Même gagner, pas certain que gagner tous les matchs restants soit suffisant. C'est dommage aussi. Je pense que cette équipe, elle avait les moyens aussi de se maintenir. Elle l'a prouvé en faisant des matchs de qualité.
Elle s'est réveillée un peu tard.
S'est réveillée. Ce début de saison qui a été compliqué, qui leur a peut-être plombé la saison complète. Je sais pas.
Donc là, même objectif que pour le volet, Patrick, finir à cette dernière place relégable au cas où.
Voilà, pour espérer. D'ailleurs, bon, certains dirigeants disent qu'il n'y aura peut-être que deux descentes. C'est compliqué, ça dépend des divisions supérieures et des clubs du Languedoc, s'ils vont se maintenir ou pas. Bon, il y a tout un tas de systèmes. Il faut attendre la fin du championnat pour en savoir plus.
Il y a un autre système aussi, c'est les clubs qui présentent le nombre d'arbitres suffisants.
Voilà, c'est ça, l'équipe de jeunes. Enfin, il y a tout un tas de contraintes qui pèsent sur les clubs. Et bon, s'ils ne les respectent pas, c'est vrai que ça peut entraîner des relégations et donc des clubs qui soient repêchés. Mais c'est vrai que l'analyse est quand même un peu différente par rapport au volet. C'est que bon, on a vu un début de saison catastrophique au niveau du hand. Bon, il y a quand même eu des problèmes aussi, des tensions avec l'entraîneur, incontestablement, puisque l'entraîneur après a été écarté, il est parti. Bon, il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé. Bon, ça a donné un petit coup de boost, mais on voit que c'est compliqué. Mais là, sur ce match d'Annecy, ce qui fait un peu mal quand même, c'est l'écart au score. Hein, parce que bon, Annecy, quand même, c'est pas une des meilleures équipes de la division. Bon, ils ont tenu une mi-temps. Hein, mais bon, voilà, on espérait
plus
quand
un,
même.
Bah, plus un pour moi dans voilà. le temps. Et surtout, j'ai vu un peu les stats. Il y a eu pas mal de 2 minutes d'expulsion temporaire pour Annecy en deuxième période. Je pense qu'ils ont joué l'élément doigt plus souvent en supériorité numérique. Qu'Annecy, et au final, ils perdent, ils ont jusqu'à 10 buts de retard, les Mandois, dans cette deuxième mi-temps. Ils ont un premier quart d'heure de deuxième période qui est assez catastrophique.
Dans un match capital comme ça, contre une équipe de milieu de tableau, c'est vrai que ça fait bizarre de te retrouver mené de 10 buts en deuxième mi-temps, alors que tu sais que tu joues ta survie. Alors qu'Annecy, bon, mais ils peuvent plus monter. Bon, là où ils sont classés, ils sont sur quasiment de se maintenir. Bon, donc c'est une équipe. Bon,
tu as le trajet,
tout ça. Bon, on sait comment ça marche.
Voilà. Quelquefois, quand il y a des équipes qui ont plus d'enjeu, elles jouent relax, sans stress, et c'est là qu'elles jouent encore mieux aussi.
C'est vrai.
Peut-être le cas d'Annecy.
C'est vrai.
Mais enfin, bref, c'est râpé pour le hand, a priori.
A priori, c'est râpé, sauf cette dernière place relégable et encore une fois les descentes administratives. Laurent, on a eu des infos sur les filles ou pas ?
Oui, alors les filles jouaient un coupe de la région
contre le
Bouillargues. Non, elles jouent pas tous les week-ends contre le MUC. Non, cette fois-ci, c'était contre Bouillargues. Là-bas, à Bouillargues, où c'est jamais facile d'aller s'imposer, elles l'ont fait 28-20, donc bravo bien. Les filles qui se qualifient donc pour les quarts de finale de la Coupe de la Région.
Et bon, Bouillargues est l'ancien club de Muriel Tarusson.
Voilà.
Qui joue chez les Mandois.
Si vous voulez des nouvelles de Marie et de certaines de ses copines d'équipe, bon, vendredi, donc il y a eu cette signature de partenariat entre la ville de Mende et les clubs, donc il y avait les dirigeants bien évidemment et aussi beaucoup de joueurs des différentes équipes, et donc j'ai vu une Marie et ses copines très en forme une fois les discours terminés, et donc ça a été parmi les dernières à quitter la salle des mariages de l'hôtel de ville, donc j'ai trouvé une équipe vraiment
très soudée,
très en forme, je peux le confirmer.
Et elle jouait donc le lendemain en plus.
Voilà, mais bon, c'était une bonne préparation, très bonne préparation.
Ouais, c'est une sorte de mise au vert.
Mise au jaune. Bon, bravo à elle en tout cas.
Bravo,
qui continue la vainqueur de la coupe.
C'est bien, Coupe de la Région, c'est quart de finale déjà, c'est pas mal. Hein. C'est toutes les divisions qui participent, jusqu'à quelle division plutôt on participe, Laurent ?
Oui, alors c'est toutes les équipes qui jouent en région, mon cher Ludo.
D'accord, parfait.
Bah, les garçons, l'année dernière, avaient perdu, je crois, une finale contre Terrain, je crois.
Ouais.
Voilà. Les garçons étaient allés jusqu'à la finale de cette fameuse Coupe.
Ils avaient joué à domicile, d'ailleurs.
Ouais.
C'était un membre de la finale. C'était toute une journée, d'ailleurs, toute une journée de finale de Coupe régionale.
Ça se décide avant
Oui, je crois que ça se décide avant.
Oui, avant le match, parce que sinon, après, c'est...
Non, mais avant, au début de la saison...
En fait, ils organisent sur une même journée, il y a toutes les finales de toutes les catégories de Coupe régionale.
D'accord.
En fait. Ça va du tout petit jusqu'au...
Alors, Laurent, ça se joue cette année, la finale ?
Alors, cette année, pour l'instant, c'est pas encore décidé, puisqu'on n'en est qu'au quart de finale.
D'accord, ça va.
Ouais, ça va, tu t'en sors bien.
Tu bluffes.
Je pense qu'il bluffe, ouais. Mais Marie va t'envoyer un message d'ici à pas longtemps, vu qu'elle est toujours
si elle est réveillée,
à l'écoute. Si elle est réveillée, ouais. Ok, allez, enfin, page basket, le match à ne pas louper, qu'on devait aller voir, Laurent et moi, et qu'on n'est pas allé voir. Ouais, les garçons du BCN recevaient l'SPTT et au bout du suspense, une défaite 52-56, on l'a dit, malgré les 4 points de Luc. Et c'était un grand n'importe quoi ce match, Luc.
Alors, c'est pas du grand n'importe quoi, mais
presque.
Non.
Rappelle-nous le nombre de fautes pour Mende, technique, d'exclusion.
Je crois qu'on est à 3 fautes techniques, dont 2 pour la coach en à peu près 10 secondes. Donc du coup, elle a été exclue du terrain au milieu du troisième quart-temps.
Et vu qu'il n'y a pas de tribune, voilà, on sait qu'elle va
le parking.
Elle doit sortir de la salle.
Ah ouais.
C'est le cas aussi.
C'est
sur... Non, c'est le cas. Bah, c'est comme un joueur de foot qui est exclu du terrain.
Oui, mais il va dans les tribunes.
Ah bah. Là, vu qu'il y a pas de... Et bah, s'il n'y a pas de tribune, il va dans les vestiaires. Donc là.
Il va derrière la grille.
Heureusement qu'à ses privés, il y a une grande de billes vitrées, donc elle a pu suivre à la fin du match.
Normalement,
la cantine en haut du.
Mais voilà. ça a été le cas une année où on avait joué au lycée Chaptal, le joueur est allé au vestiaire. Les vestiaires.
Laurent, tu fais pas ton naïf, toi qui attends 8e carton rouge, de la saison, tu sais bien comment ça se passe.
Je suis un joueur très fair-play. Tu pourras demander à Flo d'ailleurs.
Non, on le demandera.
Il n'est pas obligé de dire la vérité non plus. Et ça a été. Bah, du coup, effectivement, on a été très très sanctionné par les arbitres. trop à mon goût.
Des arbitres qui venaient de loin.
Il y en a un qui vient de Lozère et enfin qui est l'arbitre du comité de Lozère et l'autre qui venait de du Vaucluse. C'est un peu compliqué parce qu'il vient, il est en Alsace mais il vient du Vaucluse. Ouais. Enfin, bref.
En parlant d'Alsace, on est en train de boire un très bon blanc que nous a ramené Patrick.
Et du coup,
Gewürztraminer.
C'est ça, exactement. C'est très bon. Un peu doux là, pas mal. Merci. Et donc un match, non, match compliqué, mais surtout, enfin franchement, on a fait un gros match. Je dis on parce que pour une fois, je jouais.
La coach est sortie, l'ont mis coach. Allez, non, titulaire.
Tu apprendras que dans ces conditions, c'est le capitaine qui devient coach.
Non, mais t'es pas capitaine.
Non, c'était pas capitaine.
Ah bon. T'es capitaine toi, Laurent.
Oui, non, je suis non.
Non, voilà.
Ben non.
Florian, t'es capitaine.
Ça m'est arrivé, mais non.
Pas cette année.
Ça m'est arrivé aussi. Quand je coachais les garçons, j'étais capitaine.
On peut citer peut-être le capitaine, du coup.
Bah, le capitaine, c'est Aurélien Lacaze qui a fait son match. Il y a Pierre Kézac qui a fait un super match, qui nous a remis dans le coup avec, il nous a mis 10 points d'affilée, là, 10 points consécutifs, pour nous remettre dedans. Non, après, ce match, il se joue sur du petit détail, sur des dernières possessions. Parce
4
qu'en fait,
points.
Ouais, on a le panier à 3 points qui nous ramène à, alors, je crois, il doit nous ramener à 2 points de Montpellier à 30 secondes de la fin. Derrière, on fait faute, puisque, enfin, je ne vais pas vous expliquer, mais en basket, l'idée, c'est de faire faute.
Au cas où
arrêter le temps, pour donner aux adversaires des lancers francs. En plus, ils n'étaient pas super adroits aux lancers francs. Sauf que là, on s'est un peu foiré sur la faute. Et du coup, l'arbitre a sifflé une faute antisportive à Aurélien, d'ailleurs, le capitaine. Donc du coup, ça fait 2 lancers francs.
Plus la possession.
Plus la possession pour les adversaires. Voilà, elle était un peu sévère. Bon, voilà. Après, ça se finit comme ça. Mais on a fait, franchement... on a fait un super match. Les garçons ont fait un super match et on s'est bien donné. On s'est vraiment régalé malgré la défaite, malgré le climat un peu tendu. Bon, après, tout s'est bien terminé. Hein. On a serré la main, on a discuté avec nos adversaires. Non, pas du tout. Il n'y a pas eu de mauvais coup, il n'y a pas eu de mauvais geste, il n'y a pas eu de. Voilà.
Bon, mais super. Donc en fait, les fautes ont lieu que. Est-ce on peut eu trop d'incidence en fait sur le match. Si c'est la coach qui s'est fait sortir 2 fois.
Si, parce que quand
t'as quand une tu faute, fais une quand sportive,
tu fais, quand tu fais, alors quand faut expliquer quand tu fais une faute technique, il y a un lancer franc pour l'adversaire plus la possession de balle.
Ouais.
Pour l'adversaire.
Il y a une sportive, c'est pareil.
T'as deux lancers francs. Deux lancers francs. Ouais.
Quoi qu'il en soit, c'est l'adversaire qui a le ballon, quoi.
Non, parce que si c'est une faute normale. Il y a faute, mon adversaire tire mes 2 lancers francs, c'est moi qui fais la remise en jeu.
Oui. Comme quand
tu prends un pénalty au foot. Sur une fausse technique, c'est comme
j'avais pas compris.
C'est comme si par exemple au foot tu concèdes un pénalty.
Là, il fait semblant d'avoir compris. Hein.
Non, là ça y est,
tu concèdes un pénalty, le mec, ton adversaire marque le pénalty et c'est lui qui engage. Voilà, c'est ça.
Le basket, c'est.
Mais c'est un peu le cas au Rwanda aussi, je crois.
Non, jamais vu ça.
Non. Bon, enfin, une défaite de 4 points, c'est dommage.
Ouais, c'est dommage. C'est un bon match.
Les filles jouaient pas.
Non, les filles jouent le 24 avril à domicile contre Saint-Christol-les-Alès.
Allez, on va aller les voir.
Cette fois-ci,
on est là.
Ou pas.
Pas à 21h, hein.
Si, normalement c'est 21h.
Ah, on viendra peut-être pas.
Non, c'est la finale de The Voice. Ludo est pas là.
Je ne regarde pas The
Voice. Ça me dit, regardez la finale de la Coupe de la Ligue. Donc vous pouvez pas attendre là.
J'ai eu la fin, ouais. J'ai eu le but de Cavani, le dernier là.
Bon, c'est bien.
Ouais, allez, football.
Et si tu veux une dernière info basket, vas-y. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, on a appris le forfait de Noah pour le championnat d'Europe.
Oh,
bon, voilà, ça me désespère.
Et du coup, il fera pas les Jeux Olympiques et c'est bien fait, là, il nous fatigue.
Voilà. Mais en revanche, on peut se réjouir de la super saison que fait Rudy Gobert.
Et d'ailleurs, il a dit que c'était pas la peine qu'il soit là puisque Gobert était vraiment meilleur que lui et donc il méritait de jouer à sa place.
Ah bah oui, tiens.
C'est une des façons dont il a justifié le fait qu'il était une nouvelle fois forfait pour l'équipe.
Il a dit qu'il aurait mal à la cheville au mois de septembre. C'est bien, il prévoit à l'avance qu'il va avoir mal à la cheville.
Il a dit au pire, il y a un pivot au BCM qui est énorme, qui a marqué 4 points ce week-end, autant que moi. Voilà. Allez, football, la semaine dernière, il n'y avait pas d'instant sport, c'était le lundi de Pâques, donc on a plusieurs résultats à vous donner. On va commencer par Marvejol, qui s'est imposé une nouvelle fois en coupe contre l'AFL, toujours 1-0, en coupe Lozère cette fois-ci, hein, et se qualifie pour la finale contre, messieurs,
le NL.
Yes.
Match engagé.
Un match engagé.
Je suis allé le voir, oui, Marvejol-Mande. Et un carton rouge de chaque côté, il aurait peut-être pu avoir plus.
Ah ouais, ok.
Match tendu, ouais, c'est vrai.
Match tendu.
Match tendu.
Ah ben, en coupe, c'est normal. Hein. Il
faut, normal, demi-finale, ouais, c'est normal.
L'agressivité. Tu œuvrais, Patrick? Tu œuvrais.
Non, je n'ai pas vu le match, mais bon, les échos que j'ai eus, c'est vrai qu'il y a eu un match vraiment assez tendu.
En tout cas, beau parcours de Marvejol dans les coupes. Hein. Ils sont en demi-finale contre Nîmes de la Coupe de la région.
Coupe, non, Garloser.
Garloser. Ils sont en finale
de Coupe Loser.
Et
bien.
Ils sont troisième du championnat.
Et oui, parce que.
Même second.
Second.
Second ex aequo, ils ont gagné contre A Saint-Christol 2 buts à 1, but de Diabaté et d'Endur Papé. Donc au classement, Émargues 52 points, Marvejol 49, Aigues-Mortes 2 49, Saint-Privat 48, Salins 47, US du Trèfle 44, on s'arrête là. Donc à 3 points du premier.
Hein, Saint-Privat qui a un match de moins quand même, il faut le signaler. Donc ils peuvent passer devant Marvejol. Mais surtout, ce que tu peux dire, c'est que dans pas longtemps, il va y avoir un Marvejol et Margues qui va valoir son pesant de cacahuètes.
Oui, ils peuvent se retrouver à égalité en cas de victoire.
Donc moi, depuis le début de l'émission, ça fait même plusieurs semaines, même plusieurs mois que je dis que je sens énormément cette équipe de Marvejol. Mmh. Et voilà, je suis quand même assez content de voir qu'ils ils ont encore une possibilité d'accéder à la DH1. Et puis surtout, ben, voilà, comme tu dis, deux parcours en coupe vraiment prodigieux. Et donc samedi à 17h, ils reçoivent Nîmes Olympique, alors la réserve qui joue en CFA2. Bien sûr, ça va être très compliqué puisqu'il y a trois divisions d'écart. Mais
et surtout jamais des joueurs qui ont des contrats pro qui jouent en équipe réserve aussi.
Voilà, exactement. Donc ça va être compliqué, mais il faut quand même souligner une demi-finale de Coupe Garloser. C'est une énorme performance de la part de Marvejol.
C'est pas perdu, hein, Marvejol
oui, tout
a toutes ses chances.
Tu avais joué une finale de Coupe Garloser, mais alors il y a un petit moment là.
J'en ai joué plusieurs.
Ouais, mais Marvejol, la dernière c'était, je me souviens parce que j'y étais, c'était à Molière-sur-Cèze contre Aigues-Mortes, je crois. Ils avaient perdu au pénalty, me semble-t-il.
C'était contre le Gros du Roi.
Le Gros du Roi, je savais qu'il y avait un truc avec de l'eau.
Ouais.
Le Gros du Roi, je crois qu'ils avaient perdu au pénalty, oui, notamment Vincent de Winter qui jouait à l'époque dans cette équipe de Marvejol.
Ce qu'il faut souligner au niveau de Marvejol, c'est que. Bon, le club a connu quand même plusieurs saisons plus que difficiles, avec des descentes successives. On était inquiets pour l'avenir même de ce club. Et puis là, cette année, on voit vraiment une dynamique qui s'inverse et un club qui repart de l'avant, aussi bien pour la 1 que pour la 2. Donc, bon, félicitations pour le travail des dirigeants qui, voilà, on sent que ça réenclenche du bon côté à Marvejol.
Alors, le problème de Marvejol, c'est que, bon, ils ont une équipe 1, certes, qui joue à un bon niveau. Leur équipe 2 est descendue en deuxième division Loser. Je crois qu'ils construisent des équipes un peu briques et de broc parce qu'ils n'ont pas un
effectif,
très gros effectif.
Ouais, c'est vrai.
Mais le problème que moi je voulais souligner, c'est l'école de foot. À Marvejol, il n'y a pas d'équipe à moins de 18 ou moins de 19. Même, je crois qu'à moins de 15 non plus. Donc, voilà, il y a un petit problème de renouvellement qui va arriver d'ici quelques saisons.
C'est déjà
à prévoir.
C'est déjà un peu le problème qu'ils ont au niveau de l'équipe première. Hein. On a souvent discuté. Et, c'est ce que dit Atita Diompi, le coach. Oui. C'est qu'ils sont un peu ric-rac aussi en effectif en équipe première. Ils n'ont pas un effectif pléthorique. Comme par exemple peut l'avoir l'AFL quand il s'appuyait sur deux groupes de l'ADH et de l'ADHR. Là c'est un peu plus réduit.
Donc il faudra voir à moyen terme qu'est-ce que ça donne après.
Il faut espérer que les parcours en coupe ne les fatiguent pas pour le championnat aussi, hein, parce qu'on sait que c'est l'objectif numéro 1. En tout cas, oui, 3 points.
Je ne suis pas sûr que l'objectif numéro 1 du club, c'est de monter en DHR non plus. Hein. Ils n'ont jamais annoncé. Ils n'ont jamais annoncé qu'ils voulaient monter, veulent faire une bonne saison. S'ils ont la possibilité, ils ne s'en priveront pas, c'est sûr. Mais,
après, je crois que leur dernière montée en DHR, surtout la descente, ne leur avait pas fait du bien non plus. Ils ont eu du mal à digérer.
À digérer, Tu es allé voir la finale? Tu vas voir Marvejol souvent, Florian, toi?
Non, là, c'est le premier match de la saison que je suis allé voir. Parce que, bon, il y avait la 2 de l'AFL qui nous avait éliminés au tour avant.
Ah oui, c'est vrai.
Donc ça aurait pu être nous. Alors, voilà, on voulait voir ce que ça donnait.
Ça donne quoi alors, cette équipe de Marvejol?
Ils ont su répondre présent. C'est même eux qui ont mis l'engagement dans ce match. On voit qu'il y a une entente entre joueurs, tout ça. Une bonne équipe,
Ça joue bien.
Oui, oui.
Nord-Lozère, l'ENL gagne il y a 2 semaines, 2-1 face à Val-de-Lautre avec des buts de Julien et Brunel. Et l'ENL qui confirme en battant ce week-end Thiers, 2-0, toujours Julien et Rua cette fois-ci. Au classement, l'ENL est première avec 55 points et 16 matchs joués. Lambe second, 47 points, donc un petit écart, hein, 8 points, Laurent.
Oui, alors donc j'ai eu Vivien Fontune de l'ENL. Donc en fait l'adversaire le plus redoutable en fait c'est pas l'Inde, c'est Pont-du-Château qui a quelques matchs en retard
et 3 matchs en retard, ouais, avec 38 points.
Voilà, c'est ça, c'est donc en fait c'est ils vont Château, alors, ce samedi à 20h jouer au Pont-du-Château l'ENL, donc en cas de défaite et si Pont-du-Château gagne tous ses matchs en retard, l'ENL est toujours premier avec 2 points d'avance. Donc ils ont quand même un joker.
Ouais, ils ont un petit matelas.
Un bon petit joker qu'ils peuvent griller au cas où.
Après, ça a été très compliqué visiblement, pas ce week-end, mais le week-end d'avant contre la Vallée de l'Autre. Visiblement, ils s'en sortent un petit peu miraculeusement en s'imposant parce qu'ils ont été quand même pas mal contestés, pas mal bougés et finissent par s'imposer 2-1. Là hier bon, a priori ça a été plutôt maîtrisé. Je pense qu'ils ont je pense qu'ils sont vraiment sur une très bonne dynamique. Une victoire contre Pont-du-Château, je pense que ça les mettrait quand même
même un nul
mais bon. Je sais pas ce que ça avait donné à l'aller d'ailleurs, je crois qu'ils avaient gagné
largement même.
Ouais. Je crois qu'ils n'ont pas trop 4-0. Je ne sais pas si c'est pas 4-0. Non.
Ouais, sachant que Pont-du-Château et pas Impérial non plus, ils ont été accrochés une paire de fois.
Non, puis ils ont des matchs en retard qui n'ont pas encore gagné non plus.
Non, c'est bien parti.
C'est bien parti pour l'ENL.
Ouais. Ouais. Et tant mieux. On a besoin d'avoir des équipes. Ouais,
non, mais quand tu fais un peu le tour d'horizon du football lausérien cette saison, bah, tu te rends compte que vraiment le football lausérien repart vraiment de l'avant. Ouais. Avec aussi bien l'AFL, bon, on va en parler, mais tu vois, on a parlé de Marojol, tu as l'ENL, tu as la Canourgue aussi qui est en tête de son championnat. En première division, tu as les clubs lausériens qui dominent. Tu as des championnats lausériens qui sont hyper disputés cette année. Aussi bien en promotion de première qu'en deuxième division. Tu as une promotion de deuxième avec 10 clubs. Donc en féminine aussi, tu as un championnat, tu as l'entente Gévaudan qui est un peu contesté, ce qui était plus arrivé depuis plusieurs saisons. Donc on sent un frémissement, un renouveau, et bon, c'est bon signe.
Alors l'entente Gévaudan, mon cher Patrick, qui a gagné ce week-end au Buisson. Qui repasse première les filles de l'entente Gévaudan, donc c'est AFL, Badarou,
Marvejol,
qui repasse première.
Coaché par Destin Onka.
Au championnat. Ah ouais. Destin, c'est Destin, le coach.
Super. Plusieurs années.
Ouais. Allez, mais justement, l'AFL, la réserve de l'AFL a gagné ce week-end et ça fait du bien. Victoire sur un but d'Adani à la 58e contre Clermont-Lérault. Au classement, dernier, Nîmes-Lassalien, 29 points. Mande 2, 35 points. Et après, ça va être compliqué hein, parce que le 11e, Montpellier-Atlas, a 36 points, mais avec 2 matchs de moins. Nîmes Soleil Levant 42 points avec 2 matchs de moins. Saint-Gilles 43 points avec 1 match de moins. Bon, ça paraît quand même compliqué, mais au moins voilà une victoire de la réserve.
C'est une belle victoire contre Clermont-Lérault. Un réveil un peu tardif malheureusement. Alors samedi prochain, tu vas à Nîmes-Lassalien qui est dernier derrière toi. Donc bon, si tu gagnes, on sait jamais, mais bon, c'est vrai que ça paraît quand même
surtout qu'il ne miraculeux, reste que 4 matchs.
Voilà, le maintien apparaît quand même assez plus qu'incertain.
C'est les 3 derniers qui descendent ou les 2 derniers?
Alors a priori c'est les 3 derniers.
Ouais, mais parce qu'ils veulent revenir à des poules à 12, donc le 13e compte pas, et donc tu en aurais deux autres de relégués. Bon là aussi il faut attendre par rapport au CFA2, c'est compliqué.
Ça paraît très compliqué.
Parce qu'il y a notamment la réserve d'Alès qui a fait un bon parcours jusque-là et qui est maintenant premier non relégable. Donc ils ne sont pas encore sortis d'affaires. S'ils descendaient aussi en DH... pas la réserve, l'équipe première d'Alès.
Oui. Ouais.
Allez, l'équipe 1 de l'AFL avait un match en retard la semaine dernière contre Aigues-Mortes et elle a gagné 2-0, but d'Essomba et de Gourma. Alors une victoire qui leur a permis de se rapprocher à 4 points du leader. On attendait cette victoire vraiment pour pouvoir recoller. Ce week-end, déplacement compliqué à la Grande Motte et victoire dans la douleur. 2-1, un but de Gourma à la 64e et de Barondon à la 96e. Donc vraiment à la toute fin du match. Bonne nouvelle, Narbonne a gagné 2-0 contre Carcassonne et reste dans la course avant de recevoir Paulhan. Mauvaise nouvelle, Paulhan a gagné 3-0 face à Bagnols-Pont.
Alors attends, j'ai une autre mauvaise nouvelle aussi. Vas-y. C'est c'est l'expulsion d'Alexandre Issomba-Mani. Donc qui va manquer en attaque pour la fin de saison, pour les quelques matchs à venir.
Pour les quelques matchs. Bon, visiblement, Alex Issomba qui a été provoqué et martyrisé pendant tout le match par son adversaire qui lui a mis des coups, et à la fin du match il n'en pouvait plus et il a répondu et bon, c'est là où il a pris son carton rouge.
Mais il va peut-être pas manquer tous les matchs qui restent, quoi.
Je pense qu'il va en prendre deux ou trois.
Ah ouais.
Le gros problème de l'AFL jusqu'à la fin de la saison, c'est un peu, alors je vais employer des termes, la différence de motivation de certaines équipes. Hein. Parce que tu as la Grande Motte qui mène 3-0 sur le terrain de Paulhan à la mi-temps, et 45 minutes après, ça se termine à 5-3 pour Paulhan. Et puis là, tu as une équipe de la Grande Motte qui était quasiment surexcitée à la lutte pour la montée, alors qu'ils n'ont pas rien joué. Hein. Ils sont mis au tableau, ils ne peuvent plus monter, ils ne peuvent plus descendre. Et pourtant, il y a eu une équipe de la Grande Motte qui était à 4000%. Donc, dans une motivation totalement différente que celle du match il y a 15 jours ou 3 semaines contre Paulhan. Donc, chacun en tirera les conséquences qu'il veut.
La deuxième mi-temps contre Paulhan.
Voilà. Bon, moi, j'ai déjà tiré mes conclusions. Je connais un peu quand même le milieu du football. Et donc, voilà. Donc, ça va être pareil tous les week-ends. C'est-à-dire que, il y a des équipes qui, parfois, contre, tu as eu Bagnolpont, 3-0 contre Paulhan. Après, on va pas jeter la suspicion sur tout le monde et sur toutes les journées, mais il y a quand même quand tu vois, tu l'as dit toi-même, l'attitude des défenseurs de la Grande Motte vis-à-vis des Sombas, je peux te dire qu'ils n'ont pas eu la même attitude vis-à-vis des attaquants de Paulhan 3 semaines auparavant. Donc ça veut bénir quelque chose.
Alors là où ils réfléchissent pas à la Grande Motte, c'est que l'année prochaine, il y aurait mieux qu'ils aillent jouer à Paulhan que remonter à Mende, quoi.
L'avantage pour l'AFL, c'est que je crois qu'il ne reste plus qu'un match à l'extérieur.
À Uzès.
Qui sera compliqué, il ne faut pas croire
qui sera, que Uzès est l'année dernière. Qui sera compliqué, bien sûr, non, tout à fait.
Sera compliqué.
Ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire des matchs compliqués. Ils pouvaient compliquer les matchs Uzès. Et à signaler aussi, pendant ce match, visiblement, il y a un pénalty flagrant. Pour l'AFL,
voire deux,
une main.
Des fautes de main, assez flagrantes.
Apparemment, un match qu'aurait pas renié Constant Choisy dans la surface.
Une claquette dunk, comme tu sais si bien le faire.
Exactement, l'arbitre aurait dit je sais pas si c'est un jaune ou un noir qui a fait la main, donc c'est un peu embêtant quand même quand l'arbitre il sait pas qui fait la main. Il se serait même excusé auprès du banc de l'AFL en lui disant excusez-moi, j'aurais dû siffler un pénalty. Et je me suis trompé.
Le dimanche précédent,
si contre, au moins contre... il s'est trompé, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y a des arbitres qui sont sûrs de leur connerie, des fois ça arrive.
Mais contre Aiguemort, là j'étais au match. J'étais au match, il y a deux fautes, mais alors monumentales dans la surface pour Mende. Et à chaque fois, l'arbitre ne siffle pas déjà un penalty. Bon, alors ça n'a pas prêté à conséquence, puisque l'AFL a gagné 2-0. Enfin, c'est complètement hallucinant comment tu peux pas siffler penalty sur ces deux énormes fautes. Sur un plaquage carrément de rugby sur Issomba et le deuxième sur un tacle pas derrière sur Gourmand. Je me demande encore comment on peut pas siffler. C'est à peu près ce que Marseille a vécu hier contre Bordeaux, mais je laisse Laurent en parler parce que je vois qu'il a passé une nuit blanche.
Je vois absolument pas de quoi vous parlez.
Mais je m'y attendais de cette nuit blanche. De toute façon, à Bordeaux, ça fait 37 ans qu'on se fait.
Ce match a été parfait, très bien arbitré par Monsieur Varela. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait.
Mais Luc, on parle plus de clubs qui jouent l'Europa League maintenant.
C'est vrai. Enfin, l'Europa League, qui espère jouer l'Europa League.
Non, mais c'est bon parce que comme Paris a battu Bastia, donc ça fait des clubs qui sont récupérés en Europa League.
C'est ça.
D'ailleurs,
au classement, Paulhan 71 points, Mende 67, on reste avec ces 4 points. Narbonne 62, mais avec un match de moins, donc il reste dans la course. Et après, c'est décroché.
Il reste que 5 matchs à jouer.
Il reste 5 matchs, il faut que Mende gagne tout et que Paulhan fasse au moins une défaite et un match nul. Ça commence à être compliqué.
On parlait avec Patrick avant l'émission. Patrick me disait que Paulhan va à Perpignan et va aussi à Narbonne.
Oui.
Ce qui est pas mal pour nous.
La dernière journée, donc, c'est AFL Narbonne.
AFL Narbonne.
Voilà. Donc, finalement, c'est peut-être Narbonne qui va être l'arbitre de cette.
certainement,
de cette saison.
Donc, comme tu
il
l'as franchi,
pas que ce soit Narbonne qui soit le grand gagnant de cette.
Mais comme tu l'as dit, Ludo, c'est important que Narbonne ait gagné à Carcassonne parce que ça les maintient justement dans cette course à la montée.
Ouais. Tout à fait. Allez, on va aller voir.
Il faudrait qu'à la dernière journée, ils jouent plus rien par contre.
Ce serait bien.
C'est bon, 10 bateaux pour l'un, puis après ils arrêtent.
Ouais, après ils arrêtent.
Ouais,
ce serait pas mal.
On va suivre ça. On va voir du côté de la promotion de première division avec notre invité Florian Almeraz du club de Châteauneuf. Alors les résultats de ce week-end, tout d'abord avec Laurent Julien 4, Blémard 3. Le Malzieu perd 5-1 à domicile contre le Masgros. Margeride 1, Montégoal 1. Châteauneuf 4, Chanac 2. Chirac 3-0 contre le Valdonnès 2. Et le Buisson 2 contre Aumont-Aubrac au classement.
Alors merci au club du Buisson d'ailleurs.
Oui, voilà, qui gagne Aumont-Aubrac au classement. Laurent Julien, premier avec 60 points avec un match de moins.
C'était l'AFL, bien sûr, qui veut dire.
L'AFL 3, 60 points, un match de moins. Aumont-Aubrac 53 avec un bon nombre de matchs. Chirac 45, 3e. Alors là, ça se complique maintenant. Le Masgros, 4e avec un match de moins. Châteauneuf, 39e avec 3 matchs de moins. Le Valdonnès 2, 38e avec un match de moins. Le Buisson 2, 35e avec 2 matchs de moins. Donc je m'arrête là. C'est un peu compliqué votre championnat, hein, Florian, avec les matchs en cours.
Et oui, les équipes Nord-Lozère souffrent des intempéries.
En particulier Châteauneuf, d'ailleurs.
Châteauneuf, ouais. Oui, il y a un peu le Buisson, le Blémard. Dans le même cas que nous, et chaque année c'est pareil, mais bon, chaque année il y a des matchs programmés en février.
Non, mais est-ce que tu crois pas que le district, alors la DDFL, Patrick qui est là peut-être pour nous en parler aussi,
oui.
Est-ce qu'il ne serait pas possible que le club de, par exemple, de Châteauneuf joue quand il fait beau chez lui et l'hiver joue plutôt à l'extérieur?
C'est vrai.
Parce que c'est pas envisageable.
C'est vrai, ça pourrait se faire. Ouais. Ouais.
Parce que on voit bien que les clubs de la Vallée du Lot, quand il fait un peu froid, peuvent jouer certains matchs. Que là-haut, bon, quand il y avait un centimètre de neige,
c'est sûr, à Margeride, enfin, en Yoto, c'est pareil.
Est-ce que ça serait pas envisageable, ça? Ça permettrait qu'il y ait moins de décalage au niveau du classement.
Le problème, c'est que tu risques d'avoir, si t'as 4 ou 5 clubs qui sont dans la même situation, dans la même division, ça va devenir un casse-tête.
C'est compliqué.
Si t'as le Blémard, déjà, l'hiver, c'est pas facile de jouer. Châteauneuf,
le Montélibère, il joue à l'extérieur.
Si Rieutor, Châteauneuf, le Blémard, tu les fais jouer tout le temps à l'extérieur pendant cette période, il y a un moment où ça va devenir compliqué.
Ça coince au niveau du calendrier.
Ça va coincer au niveau du calendrier.
En tout cas, si vous
mais tous les clubs ont à avoir des synthétiques, c'est tout.
Ah oui.
Mais on lance un appel
à Châteauneuf, si c'était un synthétique et qu'il y avait 5 cm de neige dessus, ça changera rien.
Chauffé,
ah oui, bien sûr.
En salle, comme à Lille, fermé.
Ah ouais.
En tout cas, avec 3 matchs de moins, si vous voulez gagner, vous êtes à la 5e place, vous pouvez remonter, voire
à la 3e.
Châteauneuf, c'est 14 matchs joués, 7 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 34 buts pour et 26 contre. C'est un bon championnat pour l'instant pour vous?
Oui. Là, bon, c'est vrai qu'on avait pas mal de matchs en retard. Donc, comme tu as dit, si on arrive à les gagner, on pourra peut-être même essayer de se battre pour la seconde place, parce qu'on a un match contre Mont. Donc, oui, c'est une saison intéressante comparée à l'an dernier.
Sachant que l'AFL ne veut pas monter, donc peut-être ça vous voulez pas monter. Hein.
Ah non, pas du tout. Non. Et peut-être que l'équipe de Châteauneuf est intéressée, je ne sais pas, tu peux nous donner un scoop?
Ben, il s'était posé la question il y a quelques saisons, hein. Il y avait une grosse discussion au sein du club pour justement savoir, parce qu'il y avait la possibilité de monter.
Oui, c'est vrai. Alors, bon, pour l'instant, on n'en parle pas trop parce que le début de saison était un peu plus compliqué. Là, c'est vrai qu'en enchaînant les matchs, on arrive à enchaîner bons résultats aussi. Parce que c'est vrai qu'à cause de la neige, tout ça, quand on joue tous les 3 semaines ou quoi,
c'est
plus compliqué.
Et pour s'entraîner aussi, c'est pas évident, forcément.
Vous avez un effectif de combien de joueurs?
Alors, en senior, il y a 37 licenciés.
Ah, bien.
Plus ou moins quelques-uns.
Vous avez deux équipes?
Deux équipes, voilà.
Ce qui doit être un peu chaud des fois quand même. Ça fait pas énorme pour deux équipes.
Ouais.
Mais après, ça dépend. Il y a des clubs avec 30 joueurs, ils n'ont qu'une équipe parce que c'est 30 joueurs qui sont là un week-end sur deux.
En période de chasse, ça doit être un peu plus compliqué.
Non. Nous, sur 37 licenciés, on a toujours fait des équipes complètes. Ça fait 2-3 ans que ça tourne plutôt pas mal avec des remplaçants. On essaye toujours d'équilibrer la 1, la 2. On favorise pas. Et
alors, attends, tu nous as pas super bien répondu tout à l'heure sur le fait si vous finissez second. À Ton avis, toi, c'est perso.
Là, tu crois qu'il est déjà champion.
Quand vous serez second, du point derrière nous.
Ils sont à 22 points derrière nous. On va attendre un peu avant de se faire doubler par Châteauneuf.
Faudrait demander, on va peut-être leur faire des travaux pour que Laurent puisse sortir de ce studio. J'ai peur.
Il a raison. Pour l'instant, c'est plutôt au monde, notre adversaire.
Non, mais il croit qu'il est champion. Mais bon, nous, on va recevoir la Eiffel et au monde.
Alors, on pourrait monter ou pas? Il paraît que les crampons sont à l'affûtage déjà.
Mon avis personnel, j'aimerais bien qu'on tente l'expérience parce qu'on est, que des jeunes. On doit être à 22 ans de moyenne d'âge sur la saison. Donc, si on le fait pas maintenant, c'est pas.
Et bien, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est une bonne réponse.
Si vous vous montez, ce sera Garloser ou.
Oui.
C'est pour ça que la question s'était posée.
C'est que Langogne joue en Haute-Loire.
Je vais vous dire pourquoi je trouve que c'est une bonne raison, une bonne réponse. C'est parce qu'il a dit que c'est une équipe jeune qui a 22 ans de moyenne d'âge. Là où nous, à Aumont, on avait 37 ans de moyenne d'âge il y a 15 jours. Donc les gens qui font les polémiques là, de dire la FL3, ils ne montent pas, on a 37 balais de moyenne d'âge. On n'a pas fait la moyenne de poids, on a fait que la moyenne d'âge. Et donc c'est bien, si vous avez 22 ans, il faut y aller les gars.
Oui, il faut y aller.
En plus, la division directement au-dessus, cette année il y a 5 clubs lausériens, alors qu'il y a 2 ans, quand la question s'était posée, il n'y avait qu'un club lausérien. Ça fait 9 déplacements, plus ou moins. Là, cette année, si on montait, il y en aurait plus de 3 ou 4.
Et en plus de ça, on peut voir que les clubs lausériens, ils gazent bien dans cette division.
A priori, c'est un club qui va se maintenir, je pense.
Oui.
Ah, tout le monde se maintient, pas de problème.
Peut-être qu'il y en aura que 4 parce qu'il y en a un qui va monter, effectivement. Ouais. C'est d'ailleurs bien parti pour, je pense.
Alors, il n'y en a pas 5, il y en a 4, non?
Oui, parce que le Valdo a.
Avant
de commencer, ouais.
On n'a pas parlé de la division supérieure. Peut-être qu'on peut en dire un petit mot quand même. Parce que Badarou est allé gagner au Buisson, donc Badarou repasse premier.
C'est Saint-Georges. Saint-Georges qui est toujours premier.
Alors sur le, si j'ai regardé sur le journal Midi Libre de notre cher
Luc, il y a des erreurs.
Saint-Georges est troisième, mais avec un match de moins.
Saint-Georges est premier en fait, avec un point d'avance sur Badarou.
Avec le même nombre de matchs.
Oui. Je crois, ouais.
Ah d'accord.
Oui, parce que c'est le week-end prochain que ça va être décalé parce que Badarou est exempt, alors que Saint-Georges va jouer.
C'est Saint-Georges les mieux placés
pour monter un PHEB.
Ils ont leur destin.
Mais voilà, s'ils gagnent leurs deux derniers matchs, parce que je pense qu'ils n'ont plus que deux matchs à jouer, Saint-Georges, c'est eux qui monteront.
Très bien.
Pour continuer,
nous en parler la semaine prochaine, justement.
Oui. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'ils ont quelques petits soucis, c'est le club de Saint-Georges. Mais je pense que
on en parlera la semaine prochaine. On reçoit l'entraîneur.
Ils ont quelques soucis avec
financiers.
Quelques soucis administratifs.
On en parlera la semaine prochaine. Il y a une école de foot à Châteauneuf.
Oui. Ça fait. On se posait la question hier. Plus de 20 ans, je pense, qu'elle existe. Donc ça va des plus petits. Alors il doit y avoir des U7 jusqu'au U13 cette année ou U11. Il y a 40 licenciés à l'école de foot et 15 filles. Donc on a on a le label école de foot au féminin. Ouais. Donc,
vous avez une équipe féminine ou pas?
Non, plus depuis cette année. C'était un peu compliqué en effectif tout ça.
Il y avait une entente les années précédentes avec Grandrieux.
Grandrieux, mais ça pareil, l'entente ça faisait 2-3 ans, mais avant on était autonome, mais bon c'est. C'est toujours compliqué avec les filles parce qu'elles travaillent les week-ends et tout. Donc.
Mais à Châteauneuf, bon.
Moi, je confirme, c'est compliqué.
Il peut pas le dire, mais bon.
Patrick,
À Châteauneuf, il faut souligner le travail. C'est un ami, c'est pour ça que je vais le dire, du président Joël Catalan, qui est un type vraiment, à mon avis, formidable et qui œuvre énormément pour son club et pour son village de Châteauneuf. Il est à la mairie, il est au conseil municipal, il est pompier volontaire, il est président du club de foot, donc il se démène pour toutes les associations, il se démène pour son village, et il fait partie aussi de la DDFL, il est au comité directeur, et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, et il fait un travail remarquable pour le football lausannien.
Il a eu été président du
DDFL il y a quelques années, c'est vrai.
C'est bien une équipe de 22 ans de moyenne âge, vous êtes que des potes en fait.
Oui, voilà.
C'est pas donc, trop dur le dimanche matin?
Si, ça nous arrive. Du coup, des fois, on décale les matchs le samedi. Non, mais on se retrouve en général le vendredi soir pour l'entraînement. Et, Et on ne se quitte pas jusqu'au dimanche soir en général.
Vous avez combien d'entraînements par semaine ?
Là, cette année, on a essayé d'en instaurer deux par semaine.
Deux par semaine.
Donc le mardi et le vendredi. Bon, le mardi, on est toujours un peu moins nombreux, mais le vendredi, on arrive à tourner à 15 gars. Bon, il y a des clubs un peu voisins qui, comme eux, c'est compliqué de leur côté. Ils viennent avec nous.
Ils viennent vous compléter un peu pour...
On a quelques joueurs de la Bastide et de Roc le Grand Rue.
Ah, c'est bien ça.
Tu as coché la date pour le match contre l'AFL ou pas encore ?
J'ai pas regardé, mais nous, on prend les matchs... les uns après les autres, quel que soit l'adversaire, on le sait quoi.
Non mais parce
qu'on
que moi, tu as un gros match. Je flippe un peu à l'idée de venir jouer à Châteauneuf parce que vous avez perdu que 2-0 contre notre équipe réserve qui joue 4 divisions dessus. Donc la logique voudrait que vous nous battiez quoi en fait. Hein.
Donc
là j'ai la pression quoi.
Non mais on a un défaut, on se met souvent au niveau de nos adversaires. Donc dans le bon sens comme dans le mauvais sens, mais ça n'a jamais été facile pour vous chez nous, et cette année je pense que c'est à bonne.
On pourrait il a faire le match en direct en fait.
Il a raison.
On va cocher la date, hein. Il faudrait qu'on aille le voir.
C'est ouais, comme le match de la SPTT
le samedi à 21h, j'ai apéro, moi je peux pas.
Non mais c'est vrai que le
contre dimanche à 10h
contre Châteauneuf c'est toujours des matchs disputés. Équipe, viril. On va dire, un petit peu virile, rugueuse. Quand on revient de Châteauneuf, on a tous des béquilles aux cuisses et les chaussettes rouées. Mais ça finit toujours, c'est sympa, ils payent leur coup à boire après. C'est très bonne mentalité, le club de Châteauneuf.
D'ailleurs, autre équipe rugueuse, Chanac, vous avez joué à Chanac, c'est un peu rugueux
C'est eux qui sont venus. Ça allait. On a connu pire, mais.
D'accord.
On s'en est bien sorti, oui.
4
oui.
buts à 2, c'est ça ?
Oui.
Tu joues quelle place ? On t'a même pas demandé.
Tout sauf gardien.
Non, cette année, je joue plutôt au milieu ou des fois devant. Je ferai en sorte de jouer sur l'aile de Laurent.
Non, non, surtout pas. Non, non,
non, mais.
Non, petit pont, grand pont.
Plus grand pont. Ouais,
vu comme il est taillé, déjà à la tête, il va prendre tous les ballons. Ouais. Il faudra que je le stoppe avant.
C'est ça le problème. C'est sympa de recevoir les clubs lausériens. Vous jouez de quelle couleur à Châteauneuf ?
Jaune et noir.
Jaune et noir, contre jaune et bleu.
Ouais. Ah oui, parce que, enfin, des fois, Mande, au cas où on est changé de couleur, ils n'ont pas la bonne couleur de maillot, mais
non.
On a toujours un jeu de maillot en stock.
Ça, c'est pour que vous l'aviez, les deux jeux de maillot.
Non, mais vous saurez que.
Donc, il gagne avec le maillot de l'ASR. Donc,
l'équipe 3 n'est pas riche de l'AFL et récupère les maillots
des années d'avant.
Ils vont nous faire pleurer. Rappelez-moi combien est le partenariat que l'AFL vient de signer avec la mairie de Mende.
Je sais plus.
Mais tu sais que l'équipe 3, ils ont rien. Ils ont raison.
Nous, on récupère les ballons d'entraînement qui ont passé tout l'hiver au Cosdoge là-haut. C'est pas.
Oh, les pauvres.
Ouais.
Attends, je crois qu'il me reste 2-3 euros là, je t'ai filé.
Vous n'avez plus besoin de vous entraîner.
C'est 1h quasiment 20. On va vite faire une pause musicale avant de parler de ces beaux résultats de la Ligue 1 de ce week-end. Sauf Toulouse, on ne va pas en parler. On va faire une pause avec Métronomie. On revient Toulouse, de suite après.
Mais c'est normal, ça va fusionner.
Was I more alive than I am now? from my hand or my wrist. Cause flesh is flesh, flesh is flesh is flesh. The difference is thin, but life has a certain ability of breathing new life into me. So I breathe it in. It tells me here you are, and we all are here. And you still can make sense if you just show up and present some honest face instead of that grin. And the question is, was I more alive than the night now? I happily have to disagree. I laugh more often now. I cry more often now. I am more me. And the other day, this new friend of mine said something to me. Something starts differently doesn't mean it's worthless. And I soaked it in. How I soaked it in. How I soaked it in. And just asked to prove how right it was. Then you came. So I'm gonna give. Yes, I'm gonna give. I'm gonna give you a try. Yes, I'm gonna give. Yes, I'm gonna give. Try. And the question is, was I more alive than the night now? I happily have to disagree. I laugh more often now. I cry more often now. I am more me.
Allez, on est de retour dans cette émission avec la Ligue 1, les résultats de ce week-end. Caen qui perd à domicile face à Monaco 3-0. Saint-Etienne gagne Nantes 1-0. Toulouse gagne 1-0 contre Montpellier. Rennes 1, Guingamp 0. Évian 0, Lille 1. Lorient, Lens 0-0. Reims 0, Nice 1. Et hier soir, Bordeaux qui gagne contre Marseille 1-0. Alors Lyon-Bastia se jouera le 15 avril et Paris Saint-Germain-Metz le 28 avril exactement. Alors au classement, on va faire les 7 premiers et voir vite fait avec la fin. Donc le Paris Saint-Germain est premier avec un match de moins, 62 points. Lyon 61 points, un match de moins. Monaco 58 points, il repasse à la 3e place. Enfin il passe parce qu'ils n'ont jamais été de la saison. Marseille 4e avec 57 points. Saint-Etienne possiblement européen après la victoire de Paris en Coupe de la Ligue, 5e 56 points. Bordeaux 54 points, possiblement européen si Paris gagne la finale de la Coupe de France contre Auxerre. Et 7e Montpellier 49 points, en bas du classement.
Possiblement c'est... pas européen.
Possiblement pas européen qui ?
Montpellier.
Ouais, ouais, mais je pense pas qu'ils seront européens. Mais bon. Vers la fin, non, c'est serré.
Confirme,
à part Metz et Lens qui ont 26 points, c'est quasiment fait. Toulouse, 18e, 35 points. 17e, Reims, 35 points. 16e, Lorient, 35 points. 15e, Évian, 36 points. Extrêmement serré. Principale information de ce week-end, on va éviter de parler d'arbitrage et compagnie. Marseille qui délaisse sa place dans les trois premiers, Patrick.
Pas dans les trois premiers, puisque tu as un seul point de retard sur Monaco et tu vas recevoir Monaco.
Il descend du podium.
Pour l'instant,
oui, voilà,
il descend du podium.
Voilà. Donc tu as pas fait une croix sur la troisième place. Par contre, il est bien évident que sur les deux premières, bon, c'est quasiment terminé. Après, bon, moi, je le dis lucidement, avec l'équipe qui est cette année, en particulier la défense de Marseille tout au long de la saison, ça paraît quand même logique que tu ne finisses pas dans les deux premiers, il faut le reconnaître. Après, par contre, je dis que l'effet Bielsa ben, moi, dans 20 ans, dans 30 ans, j'en reparlerai encore avec des trémolos dans la voix, parce que tout au long de la saison, on a vu des matchs vraiment extraordinaires. On voit enfin une équipe de Marseille qui joue. Alors, bien sûr, on prend des risques, tu perds 3-2 contre Caen alors que tu mets 2-0, on peut le regretter ou tout ça, mais enfin, au moins, tu te régales. Et bon, hier, on a vu encore une fois un super match de football et une très belle équipe de Marseille. Ouais, donc, c'est ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que Bielsa est un dieu vivant auprès des supporters de Marseille.
Oui, je pense que Marseille méritait clairement pas de perdre hier.
Mais c'est clair, même le match nul, tu peux être déçu, ça me parlait du pénalty, parce que
je pense qu'il y a pénalty et carton rouge. Il y a surtout les Marseillais ont quand même, les Bordelais ont quand même frappé une fois un tir cadré du match. C'est aller au fond. Alors que bon, les Marseillais
ne méritent pas d'être sixième Bordeaux.
Mais même à 0-0, Bordeaux aurait été satisfait, fait un mini hold-up.
Il l'a quasiment reconnu, voilà. Le coach Willy Sagnol.
Tu crois que c'est fini? Vous croyez que c'est fini pour les deux premières places?
À mon avis, c'est fini pour les deux premières places.
Paris gagne contre Metz, il y a 8 points d'écart. 8 points d'écart à 6 journées de la fin, avec un calendrier qui n'est pas le plus facile celui de Marseille.
Moi, ce que j'ai peur, c'est que ce soit même fini pour les trois premières places, parce que Monaco.
Tu joues Monaco.
Ouais, matin, Monaco, en ce moment, il faut voir.
Monaco, ils ont la Ligue des Champions encore, ça prend des forces.
La Ligue des Champions, ça va pas durer éternellement pour Monaco. Mais ils ont quand même une très bonne équipe.
Tu peux finir en troisième, mais à la limite tu finis troisième, mais c'est pas pour ça que tu vas jouer la Ligue des Champions, parce que depuis plusieurs années, tous les clubs qui ont fini troisième sont éliminés avant d'arriver justement. Tu prends des gros clubs, tu prends un club espagnol, tu prends un club italien, tu prends un club allemand. Bon, après il faut passer.
Faut voir qui jouait la troisième place aussi des fois. Enfin, faut voir dans quel état d'esprit les équipes qui étaient.
Lille éliminée par Porto.
Quand t'es troisième, tu sais pas si.
Lyon
tu veux,
une année, Lyon était éliminé par.
Ouais. Alors.
Par la Real Sociedad une année. Ouais, Lyon troisième. Ouais,
parce que si tu mets l'argent pour te renforcer, prendre des joueurs et qu'au final tu joues pas avec des champions, c'est un peu ce qui est compliqué pour la troisième place.
Ouais, mais si tu recrutes pas et tu t'as pas de chance de la jouer, c'est au coup de Ligue des Champions au final. Il faut peut-être aussi, et c'est peut-être là le mal du football français, c'est que des fois il faut peut-être prendre des risques. Je pense qu'ils sont parfois frileux. C'est compliqué.
Mais avec c'est quel compliqué. Argent ? Il n'y a que Paris et Monaco qui ont de l'argent, que tu prends des risques. Tu vois, nous, mais on a recruté Montréal à Lorient.
Tu connais le budget de l'OM ? Il n'y a que Paris et Monaco qui ont de l'argent. Ils ont un gros budget, Marseille.
Tu as 142 millions.
C'est pas le même budget que les deux premiers.
Non, mais après, tu as le
problème. Ah oui, mais bon, c'est pas le même budget que Montpellier.
Après, le problème de l'OM, je pense aussi, c'est que les clubs français, ils ont une fâcheuse tendance, dès qu'ils ont un peu d'argent, à dépenser à tort et à travers. Je pense que l'OM a fait des grosses erreurs financièrement sur des transferts qui leur ont coûté beaucoup d'argent sur des joueurs qui n'avait pas le potentiel. Le dernier cas, c'est Doria. Ils mettent 7 millions sur un joueur qui n'a pas joué un seul match, qui a joué en CFA2.
Non, mais tu connais le cas Doria. Ça n'a rien à voir avec une erreur de casting.
Doria a mis un très joli but avec son nouveau club.
C'est
pas une erreur de casting, on est d'accord. Mais au final, ça vient aussi d'un problème au sein du club entre un président qui achète un joueur et un entraîneur qui ne le veut pas.
Là, on est d'accord.
Et au final, ça fait 7 millions qui sont envolés que tu aurais pu mettre.
Multiplié par 12 mois.
Non, mais par contre, ce que tu peux dire, un joueur comme Gignac, que j'adore, tu peux pas l'accuser de pas aimer son club, ça c'est sûr et certain. Mais bon, quand tu vois que tu mets plus de 20 millions d'euros, que tu files à Toulouse et que tu donnes plus de 300 000 euros par mois, bon, ça les rebouille, ok, mais sur 5 ans, bon, c'est sûr que c'est un accident industriel. Même si tu marques 18 buts cette année, c'est là où c'est grave.
Il y a les 15
millions. C'est là où c'est grave. Malgré que ce soit un bon joueur, c'est grave de l'avoir acheté 20 millions et de lui avoir donné 300 000 euros de salaire. Et d'ailleurs, maintenant, tu vas le laisser partir libre parce que les 300 000 euros, et d'ailleurs, qui va lui donner 300 000 euros? À part Dynamo de Moscou, tu n'as aucun club italien, tu n'as aucun club anglais, tu n'as aucun club espagnol.
Si, un anglais peut-être. Un club anglais.
Un club anglais, mais qui se Norland.
C'était une autre époque aussi.
Mais c'était une erreur.
T'as les 15 millions de Rémy aussi. Loïc Rémy qui arrive pour 15 millions. Et t'as André Ayou qui est libre à la fin de la saison. Et qui va te rapporter zéro.
Il signe à Montpellier, il paraît, André Ayou.
Ouais, si t'as les moyens.
Il va signer en Allemagne.
Il ne part pas dans des clubs faramineux non plus.
Non, mais c'est des joueurs qui vont libérer de la masse salariale, certes, mais qui vont rapporter zéro au club, alors qu'ils ont quand même une valeur marchande.
Merci. Saint-Etienne, tu supportes Saint-Etienne, Florian. Eh bien, ça tombe bien. C'est ce week-end le derby ?
Oui.
Ouais, gros dimanche. Match attendu contre Lyon à l'extérieur, oui. C'est à Gerland.
Oui, voilà. Mais ça ne change pas grand-chose.
Oui, ça ne change pas grand-chose. Saint-Etienne qui fait une belle remontée là, ces derniers temps. Qui,
ça change que, si quand même, parce que Lyon est très fort à domicile.
Oui, mais ouais. J'étais au match aller, 3-0, les tribunes en folie. Ouais.
Mais je ne sais pas là, si les supporters stéphanois se déplacent à Gerland. L'an dernier, ça avait été
interdit.
Ça avait été interdit, ouais.
On va avoir encore quelques tweets du président Wallace, j'imagine.
Oui, certainement. Une heure et demie, on est à la bourre totale.
Est-ce que la Casette est autant sanctionnée pour des paroles injurieuses envers les supporters stéphanois que Payet est sanctionné pour avoir dit à l'arbitre que c'est fait.
Ça pourrait être un débat, mais dans notre émission.
Non, je veux juste rajouter, si vous l'avez pas entendu, le très joli discours, la très jolie intervention du coach de Bastia, Ghislain Printemps, à l'issue de la finale de la Coupe.
Il a été formé à une belle école.
De la Coupe de la Ligue.
Et Marvejol.
Voilà, on va se rappeler que Ghislain Printemps était coach de Marvejol pendant une saison et qu'il a dit un peu ses quatre vérités au président de la Ligue, qui n'a pas daigné descendre, saluer les joueurs en finale de la Coupe de la Ligue, justement, qui est quand même la Coupe.
Il était entraîneur des Gaules pendant 20 ans à Montpellier aussi.
Moi, je trouve ça quand même assez. Assez lamentable de la part de M. Thiriez de ne pas avoir daigné descendre saluer, au moins saluer les joueurs des deux équipes.
Allez. Il paraît que les services de sécurité lui ont conseillé de justement ne pas descendre.
Il avait peur de se faire siffler.
Non, mais pas seulement ça. Ils ont eu peur qu'il y ait une véritable émeute dans les tribunes et que certains veuillent rentrer sur le terrain pour foutre le bordel et justement détruire cet avant-match. Donc il paraît qu'il y a eu un rapport de la préfecture de police qui disait qu'il y avait de fortes suspicions par rapport à ça, mais c'est pas pour excuser Thiriez qui personnellement pour moi est un personnage assez lambda et qui voilà complètement.
Allez, on va pas revenir sur le classico, même si avec Luc, on n'était pas loin d'avoir le bon pronostic.
Au moins, on avait le vainqueur.
2-1 pour Paris et moi 3-1 pour Paris. 3-2, on n'était pas loin. On parle pas des pronostics de Laurent et de Patrick.
On rappelle que Laurent a l'habitude. 8-0 pour Marseille.
Par contre, en parlant de pronostics, la Ligue des Champions revient ce week-end. Alors, mardi, la Juve reçoit Monaco et l'Atlético Madrid reçoit le Real. Mercredi, Porto, Bayern Munich et Paris Saint-Germain, Barcelone. Donc, on va pronostiquer sur les matchs français. On va commencer avec notre invité sur le match Juventus-Monaco.
Ça sent le match nul. C'est à la Juve ou
c'est à la Juve. C'est la Juve.
Ah bon, mais on va dire 1-0 pour la Juve.
Allez, Patrick.
0-0.
Luc.
0-0.
Elle est nulle. Elle est naziscopie. Allez, vas-y, alors, sors-nous le gros score.
Non, je suis comme Flo, je veux dire 1-0 pour la Juventus.
Ok, 1-0 Monaco. Allez, on poursuit. Ouais, c'est énorme. On va dans l'autre sens. Je suis fou là. Je suis complètement fou. Laurent, ton club de cœur, le PSG qui reçoit Barcelone.
Alors, je dirais que le PSG va gagner 2-0 avec un très grand Pastore. Alors, vous savez que je suis pas fan du PSG, mais alors Pastore, en ce moment, je le trouve vraiment bon, top niveau.
Je croyais que tu allais dire un très grand Zlatan.
Non,
il est pas nul.
C'est qui? Non,
il se réserve pour le match retour.
C'est Pastore qui est le métronome de l'équipe.
Ouais. T'as raison, Luc.
Ça va être compliqué pour Paris sans Zlatan,
sans Verratti,
sans David Luiz.
Est-ce que je peux revenir sur mon?
Non, c'est mort. Je dirais 1-0 pour Barça.
Ok, Patrick.
Non, moi je vois 3-1 pour Paris.
Alors attends, excusez-moi, Luc, il est supporter du PSG et il dit que le PSG va perdre à domicile.
Il veut gagner
à côté match.
Florian.
Moi, je vais dire 2-1 pour Paris, ouais. Je pense qu'ils vont passer.
Moi, je te suis. Non, je vais dire 2-2, moi. Allez, 2-2 pour Paris.
2-0.
2-2 pour Paris, donc.
2-2 pour Paris. Tout le monde a bien entendu. Allez. Ok, dernière petite info. Rugby, un quatuor d'habitués qui se retrouve en demi-finale de Coupe d'Europe de rugby programmée cette semaine. On retrouve bien évidemment Toulon qui reçoit le Leinster au Vélodrome. Dimanche, le Vélodrome qui, à cette occasion, verra peut-être une victoire. Et clairement, les Sarazens qui joueront samedi. Donc, c'est bien de club français.
À Saint-Etienne, au Chaudron.
Au Chaudron de Saint-Etienne.
Et la pelouse sera changée le lendemain. D'ailleurs.
Ils vont bien pourrir les deux pelouses. C'est parfait, ça. Super. La faute de Canal, je pense.
Hein, comme pour Payet, d'ailleurs, sa faute de Canal. Merci.
D'ailleurs, les pelouses ne parlent plus aux journalistes.
Ils sont forts, Canal.
Allez, merci Florian d'être venu.
Merci à vous de nous avoir invités.
On va tâcher de parler des résultats de Châteauneuf maintenant dans cette émission.
Tous les clubs lausériens aussi.
Voilà, exactement.
C'est sympa.
Merci les gars, et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. Ciao.
Allez, salut.
Ciao.
les Flics Jaunes au couloir en numéro 2. Allez, les Flics, c'est parti pour les Flics Jaunes.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet, je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
FM.
48 FM.